supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Constituons la liberté que nous voulons. Reparlons, si vous le voulez bien, alors de notre Constitution. Il est toujours bon de se rappeler les quelques articles qui parlent de l'élection du président de notre République. Le rôle du chef de l'État est défini par l'article 5 de la Constitution dans le titre 1er qui contient néanmoins 9 articles. Il est dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Directement élu par le peuple, le président de la République dispose d'importants pouvoirs. » De cet article 5, on nous précise que le président de la République est élu directement par le peuple. Nous l'avions vu au cours d'une autre chronique, il me semble. En 1962, le général de Gaulle avait révisé la Constitution, modifiant l'article 6, afin de prévoir l'élection du président de la République au suffrage universel direct par le peuple. Petit rappel, chers auditeurs, c'est quoi le suffrage universel direct? C'est le vote pour tous. Le suffrage universel cherche à associer le plus grand nombre possible de citoyens au fonctionnement du système politique et au choix de leurs dirigeants.
À noter que c'est notre définition d'aujourd'hui, puisque le premier président de la République élu au suffrage universel, c'est Napoléon III, enfin sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, oui, a été élu au suffrage universel. Mais au suffrage universel, des hommes uniquement. Car les femmes n'avaient pas. Donc, aujourd'hui, dire suffrage universel, c'est devenu vrai. Mais en 1868 ou quelque chose comme ça.
Et j'en reparle dans cette...
Bon, pardon,
oui, j'en reparlerai. Pardon. Car dans un régime démocratique, le suffrage universel est le fondement même de la souveraineté populaire, dont il est le moyen d'expression et de l'égalité entre tous les citoyens, dont chacun détient une parcelle de pouvoir. Il a été revendiqué sous la Révolution française, mais il n'avait pas été appliqué. Je rappelle également que les femmes ont eu le droit de vote qu'en 1944. Est-ce bien ça, Poupa ?
Oui, c'est bien ça.
En France, le suffrage universel est resté indirect. Pour les élections des sénateurs, là, on a un collège électoral qui est alors composé de députés, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux et de délégués des conseillers municipaux. Les maires sont élus par le conseil municipal à partir d'une liste. Petit rappel, il faut bien en parler de notre fonctionnement et de notre institution. Je reviens donc sur ces deux articles concernant le président et les modalités d'élection. Les détails et les nombreuses règles relatives à cette élection présidentielle sont complétés par des alinéas des lois organiques et électorales. On retiendra, et je synthétise les amis, car c'est quand même assez ennuyeux, assez fastidieux de vous lire tous ces articles. Cependant, nous sommes tout à fait dans le vif du sujet de notre actualité. Je reprends donc l'article 6. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Et je rajoute le code électoral qu'il faut strictement suivre. L'article 5, l'article 6, j'arrive à l'article 7. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Je raccourcis un petit peu. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 14e jour suivant à un second tour. Donc, chers auditeurs, je me permets de vous rappeler les dates du premier tour, le 10 avril et le deuxième tour, le 24 avril. en espérant que nous aurons un ballottage. Il faut être inscrit, bien sûr, sur les listes électorales pour voter. Si vous avez un doute et que vous n'avez toujours pas votre carte d'électeur, rien ne vous empêche d'aller à la mairie ou d'aller consulter sur servicepublic.gouv pour une inscription en ligne ou vérifier si vous êtes bien inscrit. Donc, l'article 5, l'article 6, l'article 7, que je reprends.
Au second tour,
seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Oh, en cas de vacances, c'est-à-dire si nous n'avons plus de président, on ne sait pas pourquoi, la présidence de la République...
Il y en a qui décèdent pendant leur mandat.
Oui,
on a eu l'exemple de Pompidou.
Bien sûr. Donc, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi alors par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues de l'article 11 et 12, mais je ne vous les rappelle pas, nous en reparlerons aussi une prochaine fois, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et si celui-ci est à son tour bien malade, ou on ne sait pas pourquoi, rend l'âme et ne peut plus exercer ses fonctions, eh bien alors, nous pourrons encore compter sur le Conseil constitutionnel.
Alors à noter que Alain Poher, qui fut longtemps, mais très longtemps, président du Sénat, a été deux fois président de la République, une fois lors de la démission de Charles de Gaulle et une deuxième fois lors du décès de Georges Pompidou.
Donc c'est sûr, vous voyez, ça peut arriver. Et vous voulez en savoir plus, là, moi, je vous invite à relire carrément notre Constitution. Parce que finalement, ce sont nos règles, nos lois. Et on devrait tous en connaître un minimum de ces articles. Certes, un peu ennuyeux, mais pourquoi pas? Je reprends. La loi organique du 6 novembre 62 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel dit par l'article 3 que 15 jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des candidats. Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel, au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins 500 citoyens. Eh ben nous y voilà! Tous des élus à faire valoir leur parrainage, certes des citoyens, membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de la Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil de Paris. Bon, c'est très long, c'est très très long. Beaucoup, beaucoup de monde pour essayer d'obtenir ces candidatures. Beaucoup de monde, beaucoup d'élus, ceux que nous élisons normalement par l'intermédiaire des citoyens, dits grands, grands électeurs pour d'autres élections. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18h. Disons tout simplement, un petit rappel, le 4 mars, on ne peut plus déposer son parrainage. Donc, le 4 mars prochain, eh ben moi, il me semble qu'aujourd'hui, certains ont du souci à se faire. Disposition du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution. Il est dit dans cet alinéa qu'une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Autant compliquer l'affaire, les amis. Il faut limiter les présidents en herbe, chers citoyens. Je vous laisse y réfléchir avec cette petite pause musicale, mais bien engagée.
heure de gloire est arrivée. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant de... Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
Merci pour cette petite pause musicale avec Gainsbourg. Merci à Poupa pour cette version live qui est assez prenante. Je ne sais pas si vous avez tout saisi de ce que je viens d'expliquer, et je vous ai bien expliqué que j'avais quand même essayé de vous présenter les grandes lignes. Mais on comprend bien la difficulté d'obtenir ces fameux 500 parrainages. Malgré cette liste incroyable de tous ceux qui peuvent donner alors leur approbation, leur signature pour un candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce aussi ça la démocratie? Dans cette loi organique très explicite et très longue que je ne lirai pas, j'ai retenu donc pour vous quelques passages qui nous mettent à nous, pauvres citoyens et parfois trop ignorants, de se faire une idée sur notre organisation institutionnelle pour nos élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, sous peine de nullité de leur candidature, doivent remettre sous pli scellé une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article LO 135-1 du Code électoral. Belle transparence de la vie publique en France ! Normal ! À compter de la publication de la liste des candidats, Et jusqu'à la veille du début de la campagne, les fameux médias audiovisuels doivent respecter, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne les déclarations et écrits des candidats, et à la présentation de leur personne, leur programme, leur parti politique. Poupa, tu voulais nous...
Oui, parce que c'est une évolution récente, car avant, il n'était pas cité équité, mais égalité. Et ce qui a considérablement changé les choses, notamment pour les petits candidats, qui n'ont plus le droit de citer, puisque d'un point de vue l'équitable, c'est aussi, ça prend en compte la part qu'ils représentent dans l'électorat.
Ah, oui.
La différence avec égalité, qui obligeait d'avoir le même temps de parole pour tous les candidats.
Ouais, ben moi je trouve pas ça non plus encore très démocratique, voyez-vous. Ces dispositions donc qui résultent du code électoral précisent même le principe de pluralisme qui vise à assurer une représentation des différents courants d'expression socioculturelle. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé en 1986, puis en 1989, que le respect du pluralisme est une des conditions de la démocratie, et que plus largement, le pluralisme constitue le fondement de la démocratie. Dans ces circonstances, le législateur s'est efforcé de mettre en œuvre cette exigence constitutionnelle. La loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, dite la loi Léotard, prévoit ainsi que le CSA assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en partie et en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Tu voulais rajouter ?
Alors, je voulais juste rajouter, puisqu'on vit dans ce contexte en ce moment, à savoir que cette règle, comme tu l'as dit, ne s'impose que 3 semaines avant, je ne sais plus, ou un mois avant
6 semaines, non ?
6 semaines, voilà. Mais il y a un cas qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a quelqu'un qui voudrait être candidat, qui a déjà 126 signatures, ce qui n'est pas négligeable, et qui, en tout et pour tout, a passé 5 minutes à la télévision. Alors, je vais citer son nom, personne ne le connaît.
Ah, oui, oui, oui,
il s'agit
oui.
de Anas. Anas, c'est son prénom, Kazib, qui est membre d'un groupement qui s'appelle Révolution Permanente, qui a obtenu 128 même au dernier, puisque tous les 2 jours, il donne le chiffre.
Oui, oui, oui.
Et bien, il a 128 signatures officielles. Ouais. Et il a passé en tout et pour tout 5 minutes sur les médias nationaux.
Ah oui, mais on voit bien.
Puisque la règle ne s'impose pas, bien sûr, en amont de la candidature. Mais si, sans aucun passage médiatique, il a obtenu 128 signatures, ça prouve que quand même, il y a quelque chose qui
tout
est,
à fait,
qui
ouais,
incite.
Ça parle. Hein.
Donc, faudrait lui donner sa chance.
Oui,
voilà.
C'est vrai. Bravo à lui, parce que finalement, c'est assez courageux. C'est un acte courageux que de
parce
vouloir
que,
se quand présenter.
Même, il n'a pas de passage médiatique, et c'est un arabe, en plus. Donc, il a doublement du courage.
Ouais. Bon, on peut dire que certains ont quand même dépassé leur temps de parole, parce que c'est vrai que même si le glas n'a pas sonné encore pour toutes les déclarations, je pense quand même que pour les grands médias, dans tous les cas, il y a quand même du bourrage de crâne. Désolée de dire ça, merci à Radio Doc de me le permettre de le dire.
On a eu l'exemple il y a 5 ans, on aurait parlé aux Français, leur dire que quelqu'un d'inconnu, 3 ans avant, allait devenir président de la République. Aucun Français ne l'aurait cru.
Ouais, sans doute.
Et s'il n'y avait pas eu les médias derrière, il n'y aurait jamais eu cette élection qu'on
a
connue.
Voilà, exactement, parce que certains les discréditent quand même, discréditent certains propos, certaines propositions. On n'avance pas du tout. Dans ce fameux code électoral, je reprends, vous avez bien sûr des comptes aussi à tenir. Et des comptes et de l'argent, car il en faut pour faire une campagne de l'argent. Le plafond des dépenses électorales, prévu par l'article L52-11 du Code électoral, est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros, pour chacun des candidats présents au second tour. C'est ça aussi son engagement pour la France. Ça coûte. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme après procédure et révision des comptes de campagne. Une avance, sachant, il faut le savoir, qu'une avance de 200 000 euros sera accordée au candidat. Mais remboursable, alors, jusqu'à un point, c'est-à-dire que c'est pareil, je crois que ça dépasse d'un taux d'électeur.
Voilà, il faut faire un certain taux
d'électorat voilà, pour pouvoir...
être remboursé de cette avance.
Voilà, autrement vous empruntez, donc ça veut dire que là... C'est vrai que...
Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 5%, mais je ne sais plus si à la présidentielle, c'est aussi 5%.
Au moins 5% d'électorat voilà, pour pouvoir ne pas avoir à rembourser...
5% des suffrages exprimés.
Des suffrages exprimés pour ne pas avoir à rembourser cette avance de 200 000 euros. Donc, beaucoup empruntent. Alors, il y a des prêts spéciaux, apparemment. Certaines banques vont jouer le jeu, bien sûr. Chacun peut venir soutenir aussi financièrement un candidat dans les limites du plafond des dépenses électorales autorisées. Alors, je crois que c'est dans l'ordre de 7 000 euros, par contre.
C'est non, ça, exactement. Chaque personne morale ou physique ne peut verser que 7 000 euros.
7 000 euros, voilà. Bon, vous le savez maintenant. Hein. Je viens de vous parler de deux articles de notre Constitution. Deux, trois, parce qu'il y avait l'article 5 aussi au démarrage. Donc, le 3, le 5, le 6 et le 7. Donc, en fait, quatre articles de notre Constitution. Il y a ce qui est écrit dans les textes officiels. Et il y a ce qui se passe aujourd'hui dans cette course à la présidence, avec ou sans cravate, et sur quelle chaîne. Irons-nous voter, chers citoyens? Si oui, pour le meilleur ou pour le pire? Avec ou contre? Avec ou sans nous? Alors que c'est nous, c'est vous, et c'est votre travail, vos commerces, vos entreprises, nos entreprises françaises qui font avancer et vivre la France. Nous avons des choses à dire, des exigences à avoir, mais aussi sans doute des propositions novatrices à faire pour la France, pour notre avenir. La Constitution est le texte fondateur de la République. La monarchie constitutionnelle est apparue en France avec la Révolution et la Constitution de 1791, votée par une Assemblée nationale constituante. Cette constitution de 1791 n'a pas été mise en place par le peuple, elle a été l'œuvre des élites de la bourgeoisie. À l'époque, le droit de vote, on en a parlé tout au début de l'émission, était réservé aux riches, ceux qui payaient l'impôt sans y taire, qui pouvaient être eux seuls les électeurs. Et seuls les très riches pouvaient être élus et légiférer pour préserver leurs privilèges. Mais le peuple qui avait faim a été dans la rue et a su faire basculer la royauté. Actuellement, certains politiques se débrouillent plutôt bien pour garder leur place. Ils élaborent des lois et les votent pour garder également leurs privilèges. Il serait bon que chaque citoyen le sache au moment de mettre leur bulletin dans l'urne. Dans ce système représentatif où nous vivons aujourd'hui, un président, un député n'ont aucun compte à rendre aux électeurs finalement. Et c'est pour cela sans doute que beaucoup ne croient plus dans les programmes des candidats. Car c'est incroyable de penser qu'ils ne sont pas tenus de les respecter. À la semaine prochaine, mais avant je vais juste vous lire un petit texte tiré du livre de M. André Bellon et Jean-Pierre Crépin, « Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants ». Le citoyen n'est-il plus aujourd'hui que l'arlésienne de la vie publique? On ne compte plus les rencontres citoyennes, les conventions citoyennes, les débats citoyens, mais l'utilisation prolifique du mot en tant qu'adjectif efface le citoyen acteur politique, membre du peuple souverain. Alors, moi je dis, reprenons notre place de citoyen acteur. À la semaine prochaine, chers auditeurs.
Alouette, Jean-Pierre Crépin.
Alouette,
Salva,
vous savez.
Alouette. saw me say, good day with a hit song, I thought we'll play.
Alouette, gentil alouette.
So me say, it's the nation song, you know. Me say, be step it all the way to me, say step it now. Step it all the way to me, say step it on. Kuma make me step it out of Babylon. I saw me say, step it in a Zion, you know me play. Step it all the way to me, say step it man. They all the way to me, say go de man. Kuma make me go de with a hit song. I saw me say, step it with a hit song. Beautiful song called Alouette Style. Oh, now you the brother say, Alouette Style that will play. So you got to come and down, see, you got to come and dance.
Some called Alouette Style. Now, so come down, down.